portez bien ce matin, que la semaine a été profitable pour chacun d'entre vous et que vous êtes prêts en cette matinée de l'Action de grâce à poursuivre avec nous la série qu'on a entamée il y a de cela quelques semaines sur le fameux livre du Cantique des Cantiques. Alors j'espère que vous avez apprécié jusqu'à maintenant la série. Ce matin, on est à notre cinquième exposé sur ce livre biblique qui se veut à la base un recueil de poèmes amoureux où Dieu dévoile vraiment de façon très, très claire sa vision de l'amour et du désir au sein d'un couple, dans le cadre du mariage. Et un des éléments qu'on a été exposé à ce sujet dans la série, c'est notamment la manière dont la personne de Dieu nous invite, notamment dans un couple, à se regarder l'un l'autre à travers un œil souvent favorable et gracieux. Hein? On a vu ça la semaine dernière. Yannick nous a montré à quel point le couple se considère vraiment de manière impressionniste, vraiment d'une manière très subjective et personnelle. Et l'idée qui est suggérée dans le livre, c'est que non seulement c'est possible de cultiver ce genre de regard-là à travers le couple dans le cadre du mariage, mais également dans toutes nos interactions les uns avec les autres. Alors, oui, c'est un livre pour les couples, mais même si on n'est pas dans cette situation-là, eh bien, c'est possible d'en retirer quelque chose. Dieu a quand même quelque chose à nous dire. Alors, ce matin, pour regarder un peu plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se regarder de manière gracieuse et favorable au sein d'un couple? Eh bien, j'aimerais que simplement vous prêtiez attention à la lecture biblique qu'on va examiner ce matin. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Suzanne et à Luc qui vont nous lire le passage sur lequel nous allons nous pencher ce matin.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre des Cantiques des Cantiques, du chapitre 6, verset 4 au chapitre 8, verset 4, dans l'édition Louis II. Donc, Cantiques des Cantiques, chapitre 6, verset 4, au chapitre 8, verset 4. Tu es belle, mon amie, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elle la loue. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière?
Je suis descendue au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple.
Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder, la Sulamite, comme une danse des deux cœurs? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie et le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme le jumeau d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hepson près de la porte de Batrabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel. Et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, je saisirai les rameaux, Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui de tes pommes, et ta bouche comme un vin excellent.
Qui coule aisément pour mon bien-aimé et qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Oh, connais-tu mon frère, à l'été des mamelles de ma mère, je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et l'on ne me mépriserait pas. Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du moût de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille.
Excusez-moi, j'avais fermé mon micro. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça prend du courage pour faire ce que nos lecteurs viennent de faire. Le texte qu'on vient de voir ici est évidemment probablement le plus évocateur, le plus intime, peut-être qu'il y en a qui diraient le plus croustillant de tout le livre. Une des choses qu'on remarque ici dans ce passage, c'est qu'on entre vraiment, mais vraiment, dans l'intimité d'un couple qui éprouve l'un envers l'autre, un ardent désir d'intimité. Et on peut se poser la question, dans le texte, oui, on voit un désir entre un homme et une femme, mais on peut se poser la question, d'où vient ce désir de l'un envers l'autre? Qu'est-ce qui l'a fait naître? D'où ce désir tire-t-il son origine? Parce que, vous savez, quand on regarde le monde dans lequel on vit en ce moment, beaucoup de couples se disent en panne de désir. Et à un moment donné, on dirait que le train-train arrive et là, finalement, dans le meilleur des cas, ben ces gens-là qui vivent en panne de désir, bien, ils deviennent au meilleur des cas comme des colocs. Peut-être que vous en connaissez. Peut-être que vous connaissez cette situation-là ce matin. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour notre vie amoureuse, de vivre comme des colocs? Ce texte a beaucoup à nous apprendre sur la situation, sur comment on peut maintenir la flamme amoureuse dans notre couple et garder vraiment la flamme bien vivante. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que quel est l'élément déterminant dans le texte ici qui nous permet de dire que l'homme et la femme ont allumé un désir. De quoi nous parle ce texte exactement? Oui, il nous parle de désir, mais il nous parle surtout d'un autre concept, d'un concept qui a allumé le désir. Et ce concept, cet élément, c'est celui de la beauté. Tout au long d'un texte, on l'a vu la semaine dernière, on a vu la femme, la bien-aimée, qui parle de son bien-aimé comme un véritable dieu grec. Et là, on vient de voir ce matin comment le bien-aimé voit dans sa bien-aimée un éclat sublime de beauté. En elle, il n'y a aucun défaut. Avez-vous remarqué à quel point l'homme voit ici sa bien-aimée comme un éclat sublime de beauté? Et on peut se poser la question ici, mais Miguel, ça n'a rien à voir avec la réalité, ça. Cette femme-là, elle a des défauts, elle a des imperfections, bien sûr. Mais la question qu'on peut se poser ici, c'est quoi exactement la beauté? Qu'est-ce que la beauté? En tout cas, une chose est sûre, la beauté, c'est loin d'être une science exacte où tout se calcule, se mesure, s'évalue vraiment de manière précise. La beauté, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, c'est une science abstraite. C'est vraiment quelque chose qui varie beaucoup d'une personne à l'autre. Et le poète irlandais Oscar Wilde, peut-être qu'il y en a qui le connaissent parmi vous, a déjà dit ceci à ce sujet, « La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. » Je suis convaincu que vous avez déjà entendu ce proverbe-là à un moment donné dans votre vie. « La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. » Et ce que nous dit ce proverbe-là, d'une certaine manière, c'est que pour ce qui est de la beauté, ça dépend beaucoup de celui qui en est le spectateur. Prenez une mère ou un père de famille qui s'émerveille ou s'extasie devant le dessin de son enfant de 2 ans et dites-moi que la beauté n'est pas dans l'œil de celui qui regarde. Dites-moi ça juste pour essayer de me convaincre, disons. Vous savez, pour moi, un des grands mystères de la vie, c'est que ma femme Laura me trouve vraiment très beau. Personnellement, je ne sais pas ce qu'elle me trouve. Avec mon nez un peu trop large, mes oreilles un peu décollées, mes épaules plutôt menues. Écoutez, c'est à n'y rien comprendre, mais c'est comme ça. Même si je n'entre pas dans la même catégorie qu'un Kevin Parent, qu'un Keanu Reeves ou qu'un Leonardo DiCaprio, pour elle, j'entre dans cette catégorie-là. Essayez pas de comprendre, là, fouillez-moi. Je n'ai pas arrivé à comprendre pourquoi qu'elle me regarde comme ça. C'est comme, peut-être vous allez me dire, Miguel, tu devrais acheter des lunettes à ta femme. Ça, c'est une autre histoire. Pour elle, en ce qui me concerne, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et c'est exactement ce genre de regard subjectif et personnel qu'on voit de la part du bien-aimé envers sa bien-aimée ici, vraiment de manière très claire, surtout entre les versets 4 à 10 du chapitre 6, on voit vraiment que l'homme... Il regarde sa femme puis ne voit en elle que de la beauté. Regardez notamment, je ne sais pas si on peut avoir l'acétate. Non, juste l'acétate d'avant. Et voilà. Voici le résumé de ce que dit le bien-aimé à sa bien-aimée. « Tu es belle, mon amie, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne-moi de moi tes yeux, car ils me troublent. Une seule est ma colombe, ma parfaite. » Et on n'est pas sur le plan de la réalité ici, là. Hein? On voit vraiment que ce qui intéresse le bien-aimé, c'est que même s'il dresse un portrait de sa bien-aimée, il se fout complètement que ça n'a rien à voir avec la réalité. Pour lui, sa bien-aimée est l'incarnation même de ce qu'est la beauté. Il va même jusqu'à dire que sa beauté, elle est terrible, elle est redoutable, elle est troublante, que ça lui fait perdre tous ses moyens, qu'il serait prêt à perdre la tête face à la beauté de celle qu'il aime. Peut-être qu'il y en a qui pourraient dire, écoute Miguel, ici, là, on n'est pas loin de l'idolâtrie, là. Hein, on est quasiment devant quelqu'un dont le centre de sa vie est celle qu'il aime. On pourrait peut-être dire, écoute, il est quasiment asservi par cette femme-là. On n'est pas vraiment dans l'équilibre des choses, là. Non, c'est vrai, je vous l'accorde. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'équilibre des choses. Mais est-ce qu'on est vraiment devant quelqu'un qui se prosterne à genoux devant celle qu'il aime? Eh bien, un peu plus loin dans le texte, on nous dit que la beauté de cette bien-aimée-là se situe dans un contexte où est-ce qu'il y a des reines et il y a des jeunes femmes. Et ce que dit le bien-aimé à sa bien-aimée, c'est que parmi toutes ces femmes, tu es incomparable. Tu es ma colombe. Tu es ma parfaite. Donc, ce que dit ici le bien-aimé, c'est que d'une certaine manière, il vante les louanges de sa femme. Pourquoi? Afin de faire la promotion du lien exclusif qui existe entre eux. Il vante ses mérites en disant, « Tu es absolument tout ce qui peut remplir ma relation avec un autre être humain sur le plan amoureux. Je n'ai pas besoin de rien ni personne pour combler mon mariage avec toi, mon amour pour toi. Tu es unique et parfaite, j'ai besoin de rien d'autre. » D'une certaine manière, ce que fait ici le bien-aimé, et ce qu'on peut évidemment appliquer à nos vies, c'est que c'est en vantant les mérites de notre bien-aimé que l'engagement et l'exclusivité demeurent préservés. C'est de cette manière-là que l'engagement et le caractère exclusif du mariage arrivent à s'ancrer dans nos vies lorsqu'on voit l'autre avec les yeux de notre cœur. Et on peut se poser beaucoup de questions pour appliquer ça à nos vies. Messieurs, nous qui sommes mariés à la plus belle femme qui soit, quelle est la dernière fois où vous avez été séduit par le charme de votre femme et que vous lui avez dit à quel point sa beauté chavire votre cœur? Quelle est la dernière fois où vous avez pris plus que 30 secondes pour admirer votre femme sans arrière-pensée? Vous me comprenez quand je dis ça, là? Sans arrière-pensée et de lui dire à quel point elle est belle. Mesdames, quelle est la dernière fois où vous avez reconnu et apprécié que votre conjoint ait un compliment sincère sur votre beauté et que vous l'avez tout simplement remercié? Quelle est la dernière fois où, intentionnellement, vous avez pris la peine de porter tel type de couleur ou tel genre de coiffure parce que vous savez que c'est ça qu'il aime? Vous savez, c'est comme ça qu'on arrive à cultiver la beauté dans notre regard sur l'autre. Non seulement en trouvant l'autre belle pour telle raison, mais en prenant la décision d'aimer ce qui est digne d'être aimé dans l'autre, malgré ses imperfections. Bon, il y en a peut-être qui vont dire, « Bon, tu sais, Miguel, moi, ça fait 15, 20, 30, 50 ans que je suis marié. Tu sais, ces choses-là, ça fait longtemps que c'est en arrière de nous. » Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Eh bien, vous dites que la beauté n'est pas dans l'œil de celui qui regarde. Il est ailleurs. Il est où? Dans un passé que vous regrettez? Imaginez que Dieu ait ce genre de discours envers nous et qu'il se dise, « Bah, tu sais, entre nous, là, c'est plus vraiment ce que c'était. Il me semble que ta passion n'est pas aussi grande qu'avant. Tes prières ne sont pas aussi efficaces. Ça manque de ferveur. Il me semble que ton désir de pureté n'est pas aussi grand qu'avant. Tu sais, entre nous, il y a bien des choses qui sont passées, puis pas nécessairement pour le meilleur, pas nécessairement pour le mieux. Et vous savez, que l'on soit marié, veuf, séparé, célibataire ou divorcé, cette image d'un Dieu qui entre en relation avec nous, on peut tous se l'appliquer. Vous êtes d'accord avec moi? On peut tous se l'appliquer de manière personnelle. Et quand on considère cette relation-là entre nous, entre moi et Dieu, eh bien, la plupart du temps, vous savez quoi? Moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que par rapport à Dieu, j'arrive pas aux attentes qu'il devrait avoir envers moi. Je suis déçu dans mes pensées que j'ai et que Dieu s'attendrait à autre chose de moi. Je suis déçu dans mon comportement. Je suis désappointé pour différentes sortes de choses. Et si je m'attendais que Dieu me regarde comme je le mérite vraiment, bien, j'arrive pas à sa coche. Et pourtant, voici ce que Dieu nous dit dans le livre de Jérémie envers un peuple qui n'a pas été à la hauteur. J'aimerais qu'on passe à l'autre acétate, s'il vous plaît. Merci. Dieu dit à son peuple, qui n'a pas été à la hauteur, « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne ferai pas peser sur vous un visage irrité, car je suis bon, dit l'Éternel. Je ne garderai pas ma colère à toujours. Revenez, fils infidèle, dit l'Éternel, car moi, je vous ai épousé. » Ce qu'on voit ici, c'est un Dieu qui appelle son peuple à revenir. On voit un Dieu ici qui prend la peine de regarder un peuple infidèle puis de poser sur lui un autre regard que celui qu'il mérite. On voit ici un Dieu qui prend la peine de déposer sur son peuple un regard de grâce, alors que ce qu'il mériterait, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire le jugement. Il a vu à son peuple quelque chose que personne d'autre n'a vu. Et c'est exactement le regard que Dieu veut déposer sur vous ce matin. L'être humain, à la base, est un ennemi de Dieu. à cause de ses incapacités à entrer en relation avec lui, de ses imperfections, de ses fautes. Mais voilà, Dieu, à travers la personne de Jésus, a décidé de nous fournir le moyen de déposer un nouveau regard de grâce sur nous. Et c'est à cause de ce regard de grâce-là que je peux maintenant non seulement regarder mon épouse comme Dieu me voit, mais regarder les autres comme Dieu me voit. C'est-à-dire quelqu'un qui ne mérite pas d'être digne de beauté, mais dont je prends la peine de regarder comme étant digne de beauté. Ici, là, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de flatterie ou de mièvrerie amoureuse. Il s'agit plutôt d'un œil qui a été aiguisé par l'Évangile de Dieu. Il s'agit d'un œil divin qui a été déposé sur moi et qu'il ne m'a pas été... J'ai été racheté. Dieu, ce que je méritais, son regard, c'est un regard de jugement. À cause de mes fautes, à cause de mon imperfection, je méritais le jugement de Dieu parce que je ne suis pas à la hauteur de qui il est. Mais voici Dieu à travers son Fils, sur qui a été déposé tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes incapacités, et par sa résurrection, il m'a donné la victoire sur ces péchés-là. Mais à cause de quoi? À cause du regard de Dieu. Et Dieu m'observe d'une nouvelle manière. Et c'est ainsi que je peux regarder l'autre comme étant digne de beauté, que ce soit mon épouse, mon voisin ou un parent. Je suis capable de le regarder comme étant digne de beauté parce que la perspective que Dieu m'observe d'une certaine manière, gracieuse et favorable, ça influence mon cœur. Ça me transforme. Ça me donne le goût de regarder l'autre comme étant digne parce que j'ai été observé comme étant digne. Et ici, on voit exactement ce genre de regard du bien-aimé sur la bien-aimée. Un regard tout à fait gracieux et favorable. Et on peut se poser la question ici, est où la bien-aimée dans ce portrait-là? Est où dans ce scénario-là? Eh bien, le verset 11 nous dit que la bien-aimée ici semble dans une espèce de rêve où elle se promène dans un jardin. Et voici ce qu'elle dit au verset 12 et 13. « Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Reviens, reviens, Sulamite, reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? » Ici, on est peut-être devant le passage, un des passages, en tout cas, les plus difficiles à interpréter de tout le Cantique des Cantiques. C'est difficile de savoir en quoi on parle exactement. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la Sulamite, par « mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple ». Il y a plusieurs interprétations possibles, mais ce qui est raisonnable de penser ici, c'est que la bien-aimée semble prise dans un rêve. Où est-ce qu'elle est transportée dans son imagination d'un endroit à un autre? Et là, elle est dans son rêve, puis elle est en amour avec l'amour, comprenez-vous, là? Dans sa tête, il y a toutes sortes de scénarios qui sont en train de rouler à propos de son amoureux. Puis là, elle est en train de se faire un conte de fées avec son prince charmant qui vient sur son beau cheval blanc sur une plage. Puis là, la patente à part, là. Là, l'imagination, là, ça commence à faire des cercles dans sa tête. Et dans les nuages, comprenez-vous? Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Hey, reviens là! Wake up! Arrête d'être dans les nuages, puis reviens sur terre, là! Là, t'es dans ta rêverie, c'est pas ça l'amour, là! Arrête de te conter des histoires, puis reviens les deux pieds sur terre. Reviens à la réalité, reviens sur le plancher des vaches, comme on dit, là! Ici, on parle de la bien-aimée comme étant la Sulamite. On sait pas exactement ce que l'auteur a voulu définir ici comme étant la Sulamite. Il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui disent que c'était Abishag qui s'est occupé du roi David alors qu'il était dans sa vieillesse. D'autres qui disent que non, c'est simplement la version féminine de Salomon, qui est ici le bien-aimé. L'interprétation la plus raisonnable semble que Sulamite deviendrait ici peut-être du mot shalom, qui veut dire paix. Et on dit à la fin du passage, à la fin du Cantique des Cantiques, que la bien-aimée est vue comme étant celle qui procure la paix ou qui est dans un climat de paix. Alors, c'est possible que ce soit une de ces interprétations-là, mais quand même, ce qu'on peut retenir ici, c'est que la bien-aimée semble dans un mouvement. Elle semble danser ici devant un auditoire dont son bien-aimé fait partie. Et il est possible que tout ce qu'on trouve au chapitre 7, entre les versets 1 à 9, qui est une espèce de poème où est-ce que le bien-aimé tarie des loges pour sa bien-aimée, bien soit inspiré par cette danse. C'est une possibilité. Et on voit dans ce poème-là, au chapitre 7, que là, le bien-aimé, comprenez-vous, il beurre épais, là. Là, il commence à décrire de la tête aux pieds celle qu'il aime. Et il ne se peut plus, comprenez-vous. Et voici comment qu'il conclut. Voici comment qu'il conclut au verset. Excusez-moi, pas au verset, mais oui, excusez-moi, au chapitre 7, verset 6, il conclut dans sa prose en disant « Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. » Pour lui, on voit vraiment ici que encore une fois, la beauté est vraiment dans l'œil de celui qui regarde. Et on voit ici le bien-aimé qui trouve sa bien-aimée tellement belle que pour lui, là, son désir il est allumé à l'os. Là, il ne se peut plus. Puis sa bien-aimée, elle partage également ce désir d'intimité avec lui. Ici, on voit vraiment le bien-aimé et la bien-aimée qui sont ensemble et qui veulent rentrer dans une autre forme d'intimité, évidemment sexuelle ici. Mais la bien-aimée va le faire languir encore un peu. Et voici ce qu'elle va lui dire au verset 10. « Je suis à mon bien-aimé. » Et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Là, je te donnerai mon amour. Nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Il y en a qui vont trouver ça bien cute. Puis ils disent, Miguel, ça n'a rien à voir avec la réalité qu'on voit aujourd'hui dans notre monde. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans notre monde, c'est que l'amour commence bien souvent avec le sexe. Et ce qu'on voit ici, c'est complètement le contraire. On voit ici que la bien-aimée dit à son bien-aimé, « Oui, je veux me donner à toi, mais pas n'importe comment, puis pas n'importe où. Je veux partir en escapade avec toi. Je veux aller dans une forme de lieu privé, un espace privé où je vais pouvoir me donner à toi, mais pas au su et au vu de tout le monde. Je veux que ça se fasse dans le recueillement. Je veux que ça se fasse dans une certaine pudeur. Pour moi, ce moment-là est trop spécial et je veux le vivre seulement avec toi. » C'est ce que nous dit le texte ici. On voit une femme qui assume très bien sa sexualité ici. Elle en prend même l'initiative, mais dans un domaine privé. Elle dit à son amoureux, « Viens avec moi, viens, je t'emmène en voyage. Viens avec moi dans un lieu où est-ce qu'on va juste être ensemble, tous les deux. On va pouvoir se retrouver. » Et là, notre amour va pouvoir enfin être consumé. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand on regarde le regard de la bien-aimée sur son bien-aimé, ça me fait beaucoup penser à la relation que Dieu a avec son peuple. Dans le livre d'Osée, par exemple, on voit que le peuple, lorsqu'il s'est détourné de Dieu, voici ce que lui dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Voyez-vous ici à quel point Dieu pose ici un regard très équivoque sur son peuple. Il pose vraiment un regard très subjectif, très personnel. Il dit à son peuple, « Viens, viens, je vais prendre soin de toi, je vais t'amener au désert. » Et ici, on pourrait peut-être même penser à la situation d'esclavage que les Israélites avaient au désert, pas au désert en Égypte, et où Dieu a fait sortir son peuple, l'a amené au désert pour entreprendre avec lui et initier une alliance, l'alliance qu'on voit à travers les 10 commandements. Mais ce qu'on peut voir ici, d'une certaine manière, c'est que Dieu, même si le peuple s'est détourné de lui, il veut l'amener au désert pour poser sur lui un regard favorable, un regard de grâce où les deux vont pouvoir enfin se retrouver. La vie est souvent cruelle. même dans le mariage. Le mariage, parfois, engendre des blessures qui sont difficiles à cicatriser. Et peut-être même que la lecture de ce livre, du Cantique des Cantiques, elle est peut-être même difficile pour vous, parce que ce n'est pas ce que vous avez vécu dans le couple. Ce n'est pas ce que vous vivez dans votre couple. Ou ce n'est pas ce que vous aimeriez vivre et que vous n'avez pas. Mais d'une certaine manière, ce que nous dit Dieu ici, c'est « Écoute, peut-être que tu as été déçu dans le passé. Peut-être qu'en ce moment, tu es blessé, meurtri, soit parce que tu vis ou parce que tu ne vis pas et que tu voudrais vivre. Mais n'oublie jamais une chose. Je suis le mari, nous dit Dieu, dont tu as toujours rêvé. Je suis celui qui veut t'amener en escapade avec moi. Je suis celui qui veut t'amener au désert pour te guérir de ce que tu as vécu peut-être de malencontreux. Je veux être celui qui va t'amener au désert pour vivre une relation d'intimité avec toi. Je vais pouvoir guérir, parler à ton cœur et mettre sur tes blessures le baume de l'Évangile. Et c'est ce que la bien-aimée reflète ici dans le Cantique des Cantiques. Elle veut se donner à celui qu'elle aime, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de n'importe quelle manière, ni n'importe où, ni n'importe comment. Pour elle, d'une certaine façon, la sexualité, ce n'est pas simplement un jeu, un amusement, puis encore moins un souci de performance. Pour elle, la sexualité, c'est le feu d'artifice qui conclut son amour pour son bien-aimé, pas qu'il commence. Dans notre contexte aujourd'hui, souvent les gens vont passer bien des étapes et passer d'une étape à l'autre, ils vont commencer avec la sexualité pour voir, bien, si on s'entend bien, bien, on va voir ce qu'on pourra faire après. Hein? C'est un peu n'importe quoi d'une certaine façon. Alors, pour eux, la sexualité est une manière de commencer une relation amoureuse. Ici, la bien-aimée nous invite à voir la sexualité d'une autre manière. La sexualité est ce qui conclut une relation amoureuse, pas qui la commence. L'auteur tchèque Milan Kundera a déjà dit à ce sujet: le sexe n'est pas l'amour, ce n'est que le territoire qu'il s'approprie. Bon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui dit: Miguel, je ne suis pas un territoire, là. Je suis loin d'être de la chair, là, puis un objet. Je suis pas... Comprenez-vous le principe ici? C'est dans le sens que l'amour n'est que l'espace, l'air de jeu qui conclut l'amour, où est-ce que l'amour s'approprie l'autre personne, parce qu'on voit ici que dans bien-aimé, son désir le plus profond, c'est que son cœur appartienne à son bien-aimé, puis que le cœur de son bien-aimé lui appartienne. C'est dans ce sens-là qu'on parle de territoire. On voit ici que la bien-aimée veut non seulement vivre cette dimension-là de l'intimité avec son amoureux dans le privé, mais elle veut également le voir, elle veut également témoigner devant l'espace public. Elle veut que les gens autour d'elle sachent qu'elle aime son mari et qu'il est le plus beau de la terre. Et regardez ce qu'elle dit notamment au chapitre 8, verset 1. « Oh, que n'es-tu mon frère? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et l'on ne me mépriserait pas. » Ici, ce que la bien-aimée veut faire, c'est avoir la possibilité d'embrasser son mari devant tout le monde comme si elle embrassait son frère. Ici, on voit vraiment un désir vivace de témoigner publiquement de son amour pour son bien-aimé. Ici, on voit vraiment une allusion très fidèle au mariage. Ou est-ce que quelque chose de plus grand que le mariage pour témoigner de notre amour pour quelqu'un d'autre? Dans ce témoignage-là, public, on peut certainement encore une fois ici voir l'aspect et la relation qui existe entre nous et la personne de Dieu, entre l'Église et la personne de Jésus-Christ. Regardez, par exemple, ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Paul parle de nous ici. Il parle de l'Église du Christ. Et ce qu'il dit, c'est que lorsqu'on reçoit le message de l'Évangile, lorsqu'on place notre foi, notre confiance dans le fait que Jésus-Christ est la seule personne apte à pouvoir donner ce qui a été donné à la croix pour le pardon de nos péchés et marcher par la suite en sainteté grâce à cet évangile-là, grâce à cette personne-là, si je peux marcher en nouveauté de vie, c'est grâce à lui. Et que cette relation-là qui m'unit à lui par la foi et la repentance est similaire à un acte de mariage. Où est-ce que l'Évangile nous fiance à Jésus-Christ? Et ce que Paul dit, c'est que je suis jaloux. Il est jaloux de quoi? Il est jaloux de l'exclusivité de la relation qui existe entre la personne qui est réconciliée avec Dieu et la personne de Dieu. Et ce que Paul dit, c'est que vous êtes fiancés à Christ. Ne regardez plus aux choses de ce monde. Vous faites partie maintenant d'un autre type de relation avec Dieu. Auparavant, vous étiez ennemis. Maintenant, vous êtes non seulement réconciliés, mais vous êtes mariés avec lui. Et Paul ici exprime toute sa jalousie dans le sens qu'il dit, écoutez, le monde autour de vous doivent être conscients que vous êtes mariés à Christ. Et la question qu'on peut se poser, c'est, comment je gère ça au quotidien? Est-ce que le monde autour de moi est vraiment conscient que j'appartiens à Christ? Que c'est autre chose qu'une habitude, qu'une coutume, qu'un rituel? C'est quelque chose d'extrêmement intime que je vis avec le Créateur de l'univers. Comment les gens voient-ils votre relation avec Dieu? Notamment les non-croyants. Comment la voient-ils? Est-ce qu'ils perçoivent ça que vous êtes mariés avec Christ? Commencez pas à leur dire ça, s'il vous plaît. « Ah, moi, je suis marié à Christ. » Ils vont vous dire, « Quoi? Qu'est-ce que, de quoi tu parles? » Ils disent, ils ne comprendront pas cet aspect-là. Là. Commencez pas à faire ça. Mais ils peuvent être témoins de la relation privilégiée que vous avez avec Dieu. Comme s'il était votre époux. Que vous soyez au boulot, dans le métro, dans votre voisinage, avec votre parenté, avec vos amis. Qu'est-ce que les gens vont voir de cette relation unique qui vous unit à Dieu? On voyait ici que le bien-aimé a parlé de manière tellement gracieuse et favorable de sa bien-aimée qu'elle-même, elle s'en pouvait plus de lui. Il y a un désir d'intimité partagée. Est-ce que vous voulez avoir cette intimité-là avec Dieu, comme elle est illustrée ici dans le Cantique des Cantiques? Est-ce que notre cœur ce matin est au diapason de notre mariage avec Dieu, du lien sacré qui existe entre moi et la personne de Dieu? On va passer un moment de louange ensemble. On va passer un moment de louange ensemble où est-ce qu'on va élever, ensemble nos âmes. On va élever nos âmes vers celui envers lequel nous sommes premièrement mariés. Au-dessus de votre relation de couple, il y a un autre couple. Moi, vous et la personne de Dieu. Et de ce premier couple-là, de ce premier amour-là, Dieu nous donne l'opportunité de l'incarner. Bien sûr, dans notre couple, mais dans tous nos rapports humains. Et ce matin, si vous avez été, peut-être que cette image ne correspond pas à votre réalité, c'est possible, je ne connais pas nécessairement la vie de chacun d'entre vous ici, dites-vous bien une chose. Si Dieu vous propose un tel regard sur la vie et le couple, c'est parce que vous allez être heureux dans cette dimension-là. Et que si vous ne la vivez pas, cette joie-là d'être en couple, eh bien, Dieu a un message pour vous. Viens vers moi. Laisse-moi t'amener en escapade. Laisse-moi t'amener au désert. Là, on va pouvoir se retrouver ensemble. Là, je vais pouvoir être ce que j'ai toujours voulu être pour toi. Un mari qui prend soin de toi. Un mari qui va te dire les choses que tu as besoin d'entendre pour guérir. Et parce que je vais te les dire, ensuite, ça va te donner un nouveau souffle pour vivre exactement ce que tu as vécu avec moi. Viens avec moi dans le désert. Tu vas vivre une expérience inoubliable. Je vais prendre soin de toi. Je vais parler à ton cœur. Puis ensuite, tu pourras peut-être parler au cœur de ton époux ou de ton épouse, ou de ton voisin, ou de ta fille, ou de ton garagiste. Mais avant ça, avant de vivre ça dans le caractère humain, tu as besoin d'être saisi par la perspective divine de la relation que je désire vivre avec toi. On va se courber quelques instants pour prier. Seigneur éternel, nous voulons ce matin élever nos regards vers toi, élever nos cœurs, élever nos désirs, élever, Seigneur, tout ce dont tu mérites, Seigneur, d'être adoré en toutes choses. Nous sommes devant toi comme des êtres humains faillibles. Et tu nous présentes dans ce livre la beauté du regard que tu nous invites à porter l'un sur l'autre. Que ce regard, Seigneur, de grâce et de faveur ne soit pas inspiré par nos propres forces, car ça ne durera qu'un temps. Mais nous voulons que ce soit toi, Jésus-Christ, celui auquel nous sommes fiancés, de pouvoir susciter en nous ce désir et cet amour incarné, la manière dont tu nous regardes, la manière dont tu nous observes, et que notre entourage en soit témoin. Apprends-nous, Seigneur, nous sommes à ton école. Au nom de ton Fils. Amen.